Bienvenue dans les entretiens du CFA, l'escapade du CFA Omnisport au-delà du terrain, à la rencontre de ceux qui font le sport aujourd'hui, entraîneurs, dirigeants, pratiquants, élus. À l'aube de ses 30 ans, le CFA Omnisport d'Île-de-France, premier CFA des métiers du sport créé en 1994, est parti à la rencontre de personnalités du monde sportif, associatif et éducatif pour qu'elles nous livrent leur éclairage sur la place du sport en France à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Pour ce premier épisode de la saison 1, accueillons Olivier Giraud, directeur national de l'UNSS. Olivier Giraud, bonjour et merci de nous faire l'honneur de votre présence à notre micro aujourd'hui. Un podcast ne suffirait pas à décrire votre carrière et votre palmarès, mais je vais tenter d'en citer les grandes lignes. Vous vous êtes fait connaître en tant que joueur de handball, ailier gauche pour les spécialistes, ayant évolué à Livry-Gargan, Massy, Irun et le PSG. Vous avez commencé votre carrière d'entraîneur en 2008-2009. Vous avez été capitaine de l'équipe de France de handball, avec laquelle vous avez remporté 3 titres majeurs, le titre mondial en 2001, le titre européen en 2006 et le titre olympique en 2008. Vous avez été président de la LNH, la Ligue nationale de handball pendant 2 ans et demi, et être entré en avril 2023 au Hall of Fame du handball français. Vous êtes présent dans les médias, aux commentaires de grandes affiches et en tant qu'intervenant régulier dans des émissions phares comme Les Grandes Gueules, par exemple, sur RMC. Mais non rassasié par l'univers du sport, vous êtes nommé en décembre 2021 directeur national de l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS. Alors, tout le monde connaît, sans véritablement connaître, c'est quoi l'UNSS aujourd'hui ?
L'UNSS, c'est une fédération qui est à l'intérieur de l'éducation nationale, dont le président est le ministre de l'éducation nationale. Une fédération qui organise tous les mercredis toutes les compétitions scolaires des AS ou les présidents de chaque AS, donc le club, et chef d'établissement, et tout cela dans le second degré. Le second degré, ce sont les collèges et les lycées de France et d'outre-mer. Il faut vraiment préciser d'outre-mer également, mais aussi les lycées privés. Nous avons aussi des accords avec l'AEFE, l'Association des écoles à l'étranger, et cela représente au bas mot 1 200 000 élèves par an.
Je reviens sur votre parcours. Quand vous vous retournez rapidement sur celui-ci, de quoi êtes-vous le plus fier à ce jour ?
Alors, j'ai pas trop l'habitude de me retourner parce que le moment où on se retourne, on arrête d'avancer. J'espère avoir encore des choses à apporter au sport français dans son ensemble. Quand on peut le voir, le modèle français est souvent critiqué, mais il a sa complexité. Et en fait, moi, je veux rentrer dans cette complexité pour le simplifier, qu'il soit entendu par tout le monde, parce que je trouve que notre modèle est très, très bon. Donc, non, pas regarder derrière, continuer à avancer et avec, je l'espère, l'expérience aujourd'hui qui est la mienne de m'être engagé dans cette vision de la politique du sport français, avoir quelque chose à apporter, rassembler et peut-être imaginer le modèle de demain qui nous correspondra certainement.
Vous parlez du modèle de demain, justement. Aujourd'hui, au sortir de la Coupe du Monde de rugby à l'aune des JO à Paris, quelle est votre analyse d'ensemble des résultats récents de nos équipes et nos athlètes ?
Bah souvent, on regarde notre... Je réponds souvent par une question. C'est où sommes-nous placés dans le monde ? Parce que souvent, on compare nos résultats en se disant nous ne faisons pas bien. Le sport est un monde concurrentiel. L'important, ce n'est pas de faire bien, c'est de faire mieux que les autres. Ce qui est important de regarder aujourd'hui, quels sont les modèles, ce qui marche dans les autres pays et quelles sont les attentes de notre pays. Là, on parle du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, j'ai toujours considéré qu'il était une vitrine. Parce que c'est une niche, hein, c'est une unité infinitésimale des pratiquants du sport en France. Et pour moi, il sert essentiellement à donner envie à des jeunes enfants de pratiquer du sport, pas seulement pour faire du sport de haut niveau, mais tout simplement pour bouger. Parce que bouger, c'est important. On le sait aujourd'hui, la sédentarité, c'est peut-être un des plus gros dangers qui pointe la jeunesse française, celle qui va arriver. Et un enfant qui se porte bien, c'est un enfant qui... travaille bien à l'école, c'est un enfant qui se sent bien, et donc c'est un enfant qui fera société. Donc l'important pour moi, c'est à la fois de regarder la concurrence internationale, de savoir à quoi sert le sport de haut niveau en France, et quel modèle nous voulons pour la jeunesse qui va arriver. Parce que cette jeunesse-là, elle regarde le sport de manière différente que nous le regardions il y a 20 ans.
Vous l'avez déjà évoqué précédemment, mais après les JO de Tokyo, certaines voix de sportifs, basketteurs notamment, s'étaient élevées pour dénoncer la place du sport en France. Et notamment à l'école. Evan Fournier a comparé les cours de PS à l'école à des heures de vacances où la moitié de la classe s'en fout, donc c'est dommage. Je le sors de son contexte, mais effectivement, ça a quand même été dit, même si derrière, il a fait un mea culpa là-dessus. Quel est, vous, votre avis assez global sur la place du sport en France ?
Elle n'est pas si mal que ça. C'est vrai qu'on a ce devoir d'exigence de toujours vouloir améliorer les choses, mais il faut regarder, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que l'état du sport français, de la place du sport en France par rapport à nos concurrents. Le modèle français, il est fantastique. Mais on oublie souvent de le dire. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on ne fait que de le critiquer. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. On va prendre le modèle américain que je connais aussi assez bien parce que ma fille étudie en high school aux États-Unis. Le modèle américain, il est bien tant qu'il est à l'école. Il y a des moyens qui sont mis exceptionnels, que ce soit dans les écoles privées, les écoles publiques, jusqu'à l'université, où le temps du sport scolaire est un temps précieux et noté au même titre que les autres matières. Mais il y a toujours un mais, sorti de l'école, si vous ne devenez pas sportif de haut niveau aux États-Unis, eh ben vous allez faire du sport dans un parc. Ou sinon, dans un complexe privé qui est réservé à ceux qui en ont les moyens. Lorsque vous ne faites plus de sport à l'école aux États-Unis, la première chose que vous faites, vous devenez un consommateur, avec des chips, des cacahuètes et tout ce qui va avec, et vous remplissez les salles, ce qui est intelligent dans le modèle économique américain. Mais est-ce que c'est celui-là que nous prenons ? Pas du tout. Le modèle français est envié dans le monde entier. Nous ne nous en rendons même pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on va prendre nos exemples, si vous voulez faire n'importe quel sport à côté de chez vous, à moindre prix, eh ben vous pouvez le faire dans n'importe quel sport. Vous pouvez rentrer dans n'importe quelle association. C'est pour ça que la protection du modèle associatif française est un élément premier. On doit se concentrer là-dessus. Comment protéger notre modèle, comment le redévelopper. Parce que, bizarrement, par rapport à l'Europe entière, même si on s'est aperçu que depuis les années 2000, les enfants ont perdu entre 15 et 20% de leur capacité respiratoire maximum, eh ben, il faut encore le comparer à ce niveau, au niveau mondial. Là, nous ne sommes pas les derniers. Donc, quel est notre modèle ? Est-ce que c'est un modèle copié sur le modèle anglo-saxon pour gagner des médailles et finalement ne se concentrer que sur la vitrine et oublier tous les autres ? Ou est-ce que c'est un modèle beaucoup plus participatif où la médaille fera aussi partie du jeu, mais ne sera pas le seul élément, l'élément premier de notre vision du sport dans notre pays ?
Vous devancez ma question d'après.
Ah, désolé.
Donc, on va aller plus loin. Donc, quelles seraient alors vos préconisations, idées, écoles, clubs, structures de haut niveau, élus, pour répondre aux enjeux de sociétaux de santé, vous en avez parlé tout à l'heure, et parallèlement faire émerger et accompagner des talents pour le renouvellement de l'élite ? Et quelle est ou devrait être la place de l'UNSS dans cet écosystème ?
Le modèle français, que ce soit le modèle fédéral sportif ou le modèle étatique, est basé sous la même construction. Vous avez l'État, après vous avez la région, les collectivités régionales, les collectivités départementales et les mairies. Un club, qu'est-ce que c'est ? C'est sa fédération, le national, ses ligues régionales, ses comités et ses clubs. L'UNSS, le sport scolaire, pour en parler, est sous le même système. Sous le même système, il y a la direction nationale. Il y a 180 directeurs sur tous les territoires, directeurs régionaux, directeurs départementaux. Et donc, en fait, le modèle français, il est déjà là. Il est déjà là. Il faut juste le rationaliser. Il faut juste décloisonner. Parce qu'en fait, le problème du modèle français et sa complexité, comme je le disais tout à l'heure, vous avez l'Agence nationale du sport, vous avez le ministère des sports, vous avez les fédérations, le comité olympique. Aujourd'hui, la solution, elle est aussi simple. Elle est dans l'intelligence politique. L'intelligence politique de décloisonner, de tous travailler ensemble. Et la base, en fait, c'est de retourner le sablier. On partait toujours d'une direction et d'une vision très verticale qui partait du haut et allait vers le bas. Sauf que notre modèle, contrairement au modèle anglo-saxon, il doit se voir à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut partir des clubs, des territoires, pour remonter au national. Aujourd'hui, il faut analyser que sont nos territoires, quels sports sont pratiqués, ils sont tous différents. C'est-à-dire que peut-être mettre plus l'accent sur certains territoires où on sait que l'argent aujourd'hui est dans les collectivités, dans le développement. Si le développement, par exemple, de la montagne, c'est plus le ski, il faudra que le ski ne soit que là-bas et que tous les moyens soient mis à cet endroit-là. À l'ouest, peut-être d'autres pratiques. Donc, rationaliser. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du sport que je connais bien, le handball. À travers toute cette vision et cette direction où nous allons vers les Jeux, une priorité parmi d'autres, qui était la féminisation, est en train d'être perdue et personne ne s'en occupe. On prend l'exemple du handball professionnel féminin. Aujourd'hui, il y a 3 clubs qui ont déposé le bilan dans ces dernières années. Personne ne s'en soucie. Parce qu'en fait, les causes sont multiples. C'est-à-dire que le développement du sport féminin, aujourd'hui, est grandement établi par l'aide des collectivités territoriales. L'argent ne se multiplie pas. Donc, on fait des arbitrages. Et l'arbitrage, il est simple. Est-ce que vous préférez que la flamme passe sur votre territoire et elle coûte 150 000 euros ou continuons-nous à développer ce qui est moins visible, le développement du sport féminin? Eh bien, le sport meurt de ça aujourd'hui. Mais plutôt que de se plaindre du fait de ne pas avoir de moyens, nous devons aujourd'hui plutôt trouver les solutions qui, demain, après les Jeux Olympiques, eh bien, seront des solutions qui seront pérennes pour le développement de tous ces axes qui sont voulus, les phénomènes inclusifs, s'occuper du handicap, on en parle énormément, et la féminisation. La féminisation, il faut qu'elle soit intelligente. Si demain nous sommes capables, et je veux prendre l'exemple territorial de base, là où il y a des clubs féminins, et pas des clubs de haut niveau seulement, mais des clubs féminins, il faut faire une analyse où sont les collèges et les lycées. Travailler avec la fédération, le comité qui travaille avec le service départemental de l'UNSS, avec les collectivités départementales, et travailler sur cela. Comment faisons-nous cette passerelle entre l'école et les clubs de proximité? Et dans ce thème, le haut niveau est toujours présent. Donc, aujourd'hui, le partenariat, parce que le sponsoring, ça n'existe plus, c'est à quoi sert de donner de l'argent? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt qui soit au-delà de l'intérêt seulement sportif. Quel est l'intérêt d'avoir un club féminin sur mon territoire? Si nous sommes capables de faire cette analyse territoriale des clubs, des écoles, ben c'est ces clubs et ces écoles qui vont remplir les salles des clubs féminins qui sont l'élite. Et là, les collectivités verront un sens de développement et un sens territorial de donner de l'argent sur le sport féminin. Mais cette réflexion, c'est une réflexion qui doit être portée par tous. Et aujourd'hui, malheureusement, le haut niveau l'emporte sur tout. Mais si nous ne travaillons pas très rapidement sur ce développement et ce changement de paradigme de la politique sportive, demain, ces fondations n'existeront plus et dans 10 ans, du sport de haut niveau, nous ne parlerons plus.
Le président de la République a annoncé la création de 1000 postes d'éducateurs socio-sportifs et la mise en place d'un statut dans son plan d'insertion professionnelle par le sport. Quel est votre avis justement sur l'apprentissage comme voie d'accès au métier du sport et comment le rendre plus attractif?
Là, c'est encore l'école. Hein. Le vrai problème de la fédération que je dirige, ce n'est pas son savoir-faire. Il est présent depuis toujours. Un chiffre tout simple, en termes opérationnels, c'est la plus grosse fédération opérationnelle. 37 000 professeurs d'EPS, bac plus 5. C'est-à-dire qu'ils travaillent aussi sur la psychologie de l'enfance, la diététique, sur du sport par l'éducation et de l'éducation par le sport. Une fois qu'on sort de l'école, ce n'est plus notre travail. Nous sommes une passerelle à donner envie que ces enfants choisissent. Aujourd'hui, le vrai problème de notre fédération, c'est son faire savoir. C'est de faire savoir à tous que, comme je l'ai dit au CA du Comité Olympique, parce que je suis aussi dans mes fonctions administrateur du Comité Olympique, nous sommes la seule fédération, nous n'avons rien à prendre, nous avons tout à offrir. Tellement offrir, et pour revenir à la question du début, c'est qu'à l'intérieur de ces 1 200 000 élèves, il y a un programme qui n'existe qu'à l'UNSS et qui était envié par tous, qui s'appelle le programme Jeunes Officiels. Et ce programme, en fait, c'est du sport fait par les jeunes et pour les jeunes. C'est-à-dire qu'ils s'arbitrent eux-mêmes. Ils se dirigent eux-mêmes. Et il y a un programme Jeunes Reporters. 80%, 90% des films produits par l'Union nationale du sport scolaire est fait par les élèves. Donc, toute cette dominante des métiers du sport, aujourd'hui, nous avons énormément d'élèves qui, dès la 6e, sont déjà dans cette projection d'eux-mêmes, et ça, c'est quelque chose d'important pour la jeunesse, pour se projeter dans cette projection du métier qu'ils voudront faire demain. Parce que le sport, aujourd'hui, c'est 3% du PIB français. Mais ces subsides, qui ne sont plus des subsides, quand on parle de 3% du PIB, comment sont-ils redirigés pour le développement du sport? Ce sont des questions aujourd'hui que nous nous posons, évidemment.
Pour conclure et s'ouvrir sur l'avenir, comment s'assurer alors d'un héritage des JO pertinent et pérenne? Et quand je dis JO, je parle aussi des JOPR, bien sûr.
L'héritage, c'est un mot, c'est un peu comme le respect, les valeurs. C'est un mot qui est très, très utilisé, mais jamais précisé. On parle de quoi quand on parle de l'héritage? De l'héritage matériel, d'avoir des installations, Mais les installations de haut niveau sont-elles les installations du sport pour tous? Ça, je n'en suis pas persuadé. Par contre, je suis persuadé d'une chose, et celui qui m'anime tous les jours, c'est l'héritage immatériel. Et l'héritage immatériel, ce sont nos jeunes aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple assez simple de ce combat qui est important de mener. On parle encore de la féminisation. À l'UNSS, 42% des pratiquants sont des pratiquantes. Pour une raison simple, lorsque vous allez, par exemple, dans un quartier de la ville prioritaire, quelle est la seule association qui propose à ces jeunes filles une centaine de sports et qu'elles peuvent choisir? Et à l'intérieur de l'école, là où tout est protégé, c'est le sport scolaire. Et l'idée, comme je le dis quand on a les réunions avec les villes qui peuvent être perçues comme des villes problématiques, des villes dans la QPV, mon but, ce n'est pas de créer de la misère dans la misère, de ne pas créer des instances à l'intérieur des QPV. Moi, mon but, c'est que ces jeunes filles, et ces jeunes hommes, en l'occurrence aussi, sortent de l'endroit où ils vivent, qu'ils aillent découvrir d'autres personnes, d'autres habitudes, d'autres manières de communiquer, et que finalement, leur vie n'est pas seulement la QPV, c'est sortir, en sortir, voir autre chose. Par ce biais, faire société, changer, ne pas créer des parcs, ce qui est en train de se créer actuellement. Donc, l'héritage, pour moi, c'est quelque chose d'important, et je n'aime pas trop parler de moi, mais mon parcours est un parcours citoyen. Et si je suis venu au handball, parce que j'étais footballeur à la base, personne n'est parfait, c'est que j'ai eu un professeur de PS qui m'a fait faire du handball à l'école. Et comme je dirais, et comme je le dis souvent, je ne sais pas si le handball et le sport à l'école ont fait de moi un champion olympique, mais une chose est certaine, ils ont fait assurément la personne que je suis aujourd'hui.
Un grand merci Olivier Giraud pour votre temps et pour cet éclairage pertinent sur la place du sport en France. Et à bientôt, j'espère.
À bientôt.